Chapitre 2. J'avais résolu de filer tout d'une traite à Paris. Je me méfiais d'un lent éloignement de Venise, où ces dames devaient demeurer une semaine encore. Je ne pus pas dépasser Vérone, et je luttais contre moi une journée entière pour ne pas retourner à Venise. Je me rappelle l'affreux déchirement de ce départ, où j'ai aperçu dans le brouillard du matin qui s'enlevait Venise s'éveiller au soleil d'une couleur de chair, pareille à l'étirement d'un beau bras. Je crus encore une fois que c'était là cette ville qui m'émouvait, mais à la regarder de loin, merveilleuse, véritable Vénus soulevée de la mer, je me rendis bien compte que ce n'était pas Venise que je voyais, et que ce n'était même pas de la beauté qui me touchait. Il y a à Vérone des jardins à l'italienne où l'on monte par un échelonnement de terrasses. J'y passais l'après-midi dans une terrible perplexité. D'en haut, je découvrais une allée de noirs cyprès aigus, pareille à de grands glaives endeuillés, et sur les murailles des vignes vierges qui saignaient comme des viandes déchirées. Tout cet or rutilant d'automne et le brasier superbe de la vieille ville rousse étendu à mes pieds sous le soleil ardent me parlait trop violemment de la guerre qui était allumée en moi. Je fus effrayé de ce que j'étais devenu en si peu de jours. Il fallait partir, oublier. Je descendis dîner au buffet lamentable de la gare de Vérone. J'étais le seul voyageur. On alluma pour moi deux becs de gaz qui se mirent à clignoter dans la salle immense. Des garçons rôdaient inoccupés. Des chauves-souris passaient et repassaient autour de la lumière. L'horloge sonna 8 heures, et je pensais qu'à ce moment on chantait là-bas sur le grand canal, et que la gondole qui portait la petite fiancée de M. Harrigan, l'industriel de Chicago, glissait comme sur une huile douce. Je pris le train de Paris. 2000 ans, où je fis encore une halte de lâcheté, j'avais envoyé une dépêche à ma bonne cousine de la Julière pour l'avertir que je descendais chez elle. Elle était accoutumée à diverses excentricités de ma part, et ne se montra point trop étonné de cette fantaisie. À dire vrai, je ne pouvais plus rester seul. J'étais certain que la vue de mon intérieur de garçon me serait intolérable. Je pressentais que tous mes objets familiers, tous ces petits moi-même épars sur les tables, les murs et les étagères, s'imprégneraient aussitôt de l'image nouvelle que je portais et me la renverraient avec une trop cruelle intensité. J'ai peur de la souffrance qui vient, de celle de tout à l'heure et de demain. Je m'enfonce et je me retourne au contraire avec une rage presque amoureuse dans la douleur actuelle, dans celle qui m'étreint tout de suite. Je voulais d'autre part éviter mes amis. Les plus délicats deviennent grossiers vis-à-vis d'un cœur ébranlé. Il n'y a pire que l'ami pour inventer le mot qui vous blessera à fond sur le chapitre de l'amour. Ressentent-ils de notre passion naissante une secrète jalousie? Leur petit coup de stylet n'est-il que l'instinctive défense contre la rivalité que nous venons de leur avouer si gauchement? Ils voient au point ce qui nous apercevons qu'au travers de notre exaltation. Une parole juste nous semble d'un ton si bas que nous la taxons de froideur et facilement d'impertinence. Rien ne valait pour un souffreteux de mon espèce le voisinage d'une femme tendre et commençant à prendre de l'âge. Ma bonne cousine de la Julière était un refuge mieux que maternel. Une 15aine d'années seulement nous séparait, et elle avait perdu de la jeunesse juste ce qu'il fallait pour qu'une femme gardât un parfum aimable et non troublant. Je n'avais pas avec elle cette familiarité qui l'eût autorisée à m'interroger au-delà de ce que je manifestais, à avoir envie de lui dire si précisément le respect qui m'en retenu de lui faire de telles confidences dont le goût m'aurait pu pousser. Mais sa maison m'était d'un secours presque aussi grand. Les objets y étaient d'un goût si médiocre que je ne pus jamais, dans leur entourage, tenir fermement mon sérieux. Il me faisait souvenir que des figures solennelles que j'aperçus une fois autour de la table du conseil municipal dans une petite ville de province où je suis né. J'étais parmi eux aussi à l'aise et aussi garanti de fortes impressions que je dus l'être en face de ces bonnes gens assemblés sous le buste de plâtre. Cette qualité des objets est d'une importance extrême. S'ils vous agréent, vous vous prolongez en eux. Ils augmentent votre douleur ou votre joie, toute leur surface s'ajoute à celle de votre sensibilité. Sinon, ils sont comme de ces gens quelconques de qui l'on fait abstraction sans scrupule, qui ne sont jamais gênants. Jamais l'émotion qui me brûlait ne pourrait échauffer les pendules ou les lithographies de Madame la Justière au point de leur communiquer ces petites âmes que l'on insuffle aux choses amies et qui vous parlent, qui vous racontent à vous-même, trop clairement parfois. Enfin, j'étais là moins que nulle part, encombré de ma personne. Ma bonne cousine crut que, ne descendant pas chez moi, je me dérobais aux assiduités d'une maîtresse et me plaisanta au sujet de mes goûts versatiles. Naturellement, avant que 8 jours ne fussent écoulés, je lui avais dit tout ce qu'il en était. Et voilà qu'elle veut entrer tout de suite en relation avec cette jeune fille et me la faire épouser. Mais ma bonne cousine, puisqu'elle est fiancée, elle rompra pour vous. On a vu accomplir des choses plus malaisées. Mais puisqu'elle veut être très riche, entendez-vous? Allons donc. Cela prouve, mon grand bête de cousin, que le cœur de cette petite n'a pas encore parlé, voilà tout. Elle est candide comme un agneau blanc, la chère enfant. Mais elle aimera, elle vous aimera, ça ne laisse aucun doute. Alors, allez, dites-moi où perche cette famille. Mais pas très loin, avenue Henri Martin, petit hôtel. « Mais courez-y donc, au lieu de rester là, vous morfondre sur les chenets !» Je n'y courus pas. J'attendis passer quelques semaines encore. Enfin, je me présentai, avenue Henri Martin. Fus-je plus heureux? Fus-je plus misérable qu'auparavant? Étranges effets des fortes impressions successives et des contrastes violents. Douleur de l'absence et présence soudaine, un être cru perdu, éloigné à jamais, et qui est là tout à coup et vous sourit. La réaction bouleverse, on y perd la tête. La présence a des effets si considérables dans le monde sentimental. On ne saurait ni affirmer ni nier qu'une femme que l'on tient sous son regard et sous l'influence de sa pensée par des paroles séduisantes, et qui vous reçoit un moment dans ses yeux et dans toute son attention éveillée, vous aime ou ne vous aime point, au moins en cet instant. Je suis sûr, quant à moi, que j'ai aimé ainsi durant des minutes et que je l'ai oublié après. Que faudrait-il pour que le sentiment persistât, reçût le don de vitalité? De sorte que je sentais qu'il m'arriverait souvent de sortir de chez cet enfant avec l'idée que toute son attitude avait marqué qu'elle m'aimait et que je serais, peu après, persuadé que d'autres personnes étaient autorisées à se faire la même réflexion et me remplacerait en cette minute attentive dont j'étais déjà éperdument jaloux. Comme je la regardais un moment en me taisant, elle me dit « Vous ne me reconnaissez pas ? Si et non, Si, vous me reconnaissez, parce que j'ai toujours l'air aussi pointu et sec. Puis instantanément chiffon, pommade ou lénitif, comme vous voudrez. Parce que je semble étourdi comme la girouette du campanile de Saint-Marc. Et tout à coup sérieuse comme le bonnet de grand-maman. Ah, qu'il faudra aussi vous présenter. N'est-ce pas, mère, il faudra présenter grand-maman, monsieur. Vous me suivez bien, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez de la chance. Donc, maintenant, vous avez dit que vous ne me reconnaissiez pas. J'imagine que cela vient de ce que vous m'avez vu vêtu comme un sac de nuit et que je vous ai fait presque l'effet de toucher à l'élégance. À l'étranger, on a du goût aux belles choses, et ici, à soi. Ah, vous avez eu bien du mérite à ne pas vous tenir écarté de mon écossais. Madame, dit-elle à une personne qui venait de s'asseoir, venez donc l'an prochain, auquel les esclaves vont voir ma robe écossaise. Cela vaut le pavois d'une frégate italienne au passage, d'un prince allemand. Eh bien voilà, chère mignonne, dit cette dame, un attrait qui suffirait de conduire au quai des esclavons, et vous retournez là-bas l'an prochain. À Venise, oh, toujours, j'ai aimé cette vie à la folie. Non, pas tout de suite, non. Pas de coup de foudre, vous savez. Je m'y suis même promené pas mal de temps, comme une petite sotte, et j'ai honte d'avouer aujourd'hui que je me suis ennuyé au Lido. Et puis un beau jour, oui, mettons un beau jour, cric-crac, les portes s'ouvrent, et j'aime tout de ce pays. Oh, oh, mais racontez-moi ce miracle. Je sais que rien n'est si commun que le miracle de nos jours, mais celui-là me plaît. Mais en vérité, je ne saurais dire. Je ne sais pas comment cela est venu. Vous savez, il y a de ces ciels qui s'éclaircissent d'un coup, sans qu'on remarque que la brise a changé. « Madame, fit observer la maman, qui ne parle qu'avec parcimonie, il serait injuste de ne pas attribuer à monsieur la part qui lui revient en cette belle éclaircie. Monsieur est artiste et érudit, et il excelle à vous montrer la beauté de ce qu'il touche. À moins, ajouta la jeune fille vivement et avec une pointe malicieuse, que monsieur ne soit lui-même si nuageux qu'il répande le mauvais temps tout alentour. » Ce petit détour me sauva d'entendre mes louanges et nous tira tous d'un embarras qui naissait malgré tout de la conversation. Elle se prolongea sur un ton badin et dans le brouhaha de l'entrée de plusieurs personnes, la jeune fille m'avisa avec une mine grave et fâchée. « J'ai peur, dit-elle, que vous ne me croyez pas sérieuse. »« Non, 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 je vous prends tout à fait au sérieux. » Vous qui raillez sans en avoir l'air, vous devriez pourtant comprendre que l'on puisse ne pas railler quand on en a les apparences. Il n'y avait plus de refuge, plus de repos pour moi, nulle part. Car je sentais que sans elle, il n'existait pas un endroit où je puisse m'asseoir en me disant « Je suis bien là ». Tout ce que je pouvais voir était vide et sans attrait. Paris était transformé en un désert. Et la vue de tout ce néant me donnait le vertige. Cependant, je m'efforçais à espacer mes visites. Comme toutes les fois que j'ai senti l'amour, un instinct de ruse se réveillait en moi. J'aborde à l'ordinaire tout ce qui est de biais, tout ce qui est louvoiement, dissimulation ou mensonge. Dès que j'aime, je me sens prêt à toutes les canailleries. C'est ainsi que je fis naître adroitement, lors d'une de nos entrevues dans le salon de l'avenue Henri-Martin, l'idée qu'il y aurait beaucoup d'agréments à retrouver dans différents livres certaines des impressions que nous avions eues dans notre voyage d'Italie. Ces livres, évidemment, faisaient partie de ma bibliothèque et je devais les prêter. C'était un commerce plein de promesses, sous les couleurs les plus candides. Et j'y goûtais déjà le plaisir de savoir que quelque chose de moi ou de chez moi serait entre ses mains, qu'elle respirerait en feuilletant ses pages et ses images un peu de l'atmosphère dont j'étais nourri moi-même. Mais de plus, je prévoyais que j'allais me mettre l'esprit à la torture pour lui confier de ces livres qui lui devaient raconter mon âme, où elle me verrait, me recevrait, petit à petit et malgré elle. C'était un calcul d'une subtilité puérile. Mais je faisais ce calcul. Tout cela n'aurait l'air de rien. Et je voulais aussi la circonvenir et l'envelopper. Je voulais la saturer de ma pensée, de mes caprices, de mes goûts, de telle sorte que même à distance et si longuement séparée de moi, elle en vint à ne plus penser que par ma cervelle, à ne plus marcher que dans l'emmêlure des réseaux que je lui tendais par le moyen de mille fantaisies tressées pour elle. Je rentrai donc chez moi à cause de ces bouquins. Ma bonne cousine m'avait dit « Allez, revenez vite, ne restez pas dans la solitude. » Maintenant, je ne pouvais plus en sortir et j'y étais énormément malheureux. Ce que j'avais prévu était arrivé. Il me semblait, au milieu de tous mes bibelots ordinaires, que j'avais raconté mon cœur à des centaines de gens qui restaient là à me regarder avec ma confidence dans leurs yeux. Ils me gênaient, mais je les aimais à présent de savoir cela. Ils en étaient tout transformés. Je leur trouvais des figures extraordinaires. Oh, que devait donc être la mienne? Mais est-ce qu'il y avait des livres qui continssent ce que je voulais lui dire? Tous les livres qui étaient là à me regarder s'étonnaient de me voir ainsi. Ils ne savaient pas ce que c'était, aucun d'eux ne portait ce dont mon cœur et mon cerveau étaient remplis à cette heure-là. Voici le parti que je pris. Je lui porterais un ouvrage quelconque, et dedans je glisserais un petit mot, insignifiant en apparence, mais très clair en réalité, et qu'elle comprendrait à merveille, si elle le voulait bien. J'écrivis sur un feuillet arraché à un carnet les lignes suivantes. Le livre que j'aurais voulu lui donner à lire serait été celui qui eût contenu la simple causerie entre un homme assez impressionnable pour que toute chose l'eusse frappé jusqu'à l'enthousiasme ou la blessure, assez clairvoyant pour juger, comme une peinture ou un bibelot, le rayon qui l'extasia ou le stylet qui le fit saigner, assez éloquent et évocateur pour faire revivre et palpiter cette ardeur sans emphase ni boursouflure, et une femme qui eût été l'extrême sensibilité, l'extrême intelligence et l'extrême curiosité, c'est-à-dire apte à merveille à être ravie ou torturée, à torturer ou à ravir. Les mots de leur dialogue eussent ainsi coulé, tantôt à la façon de perlettes de pluie limpide et légère, dont le bruit ressemble à de petits rires enfantins, tantôt à la façon de ces larmes lourdes des métaux en fusion qui, au toucher du sol, ont comme un court cri d'angoisse et répandent un peu de fumée âcre. Je n'ai pas trouvé le livre. Mon désir est de tenter de le faire, malgré que je manque de presque tout ce qu'il y faudrait. Les vertus que j'ai dites d'abord et puis le collaborateur. On sonna à ma porte et on me mit dans la main une lettre. Je ne pensais qu'à elle, serait-ce quelque chose d'elle. Je chassai cette idée comme stupide et fis une grimace dérisoire. C'était une enveloppe étroite et longue, une écriture de femme, que je sentis, que je vis je ne sais comment dans mon antichambre obscure. À grands pas, j'allais à la lumière. C'était d'elle. Je criai tout haut et je tombai la tête dans mes mains sur cette écriture en la baisant. « Monsieur, mon ami, vous allez tomber des nues, car je pense que vous y êtes comme souvent, en touchant cette preuve de ma témérité. N'exagérons rien, je mentirais et vous le verriez bien vite, si je n'avouais tout de suite que la main me tremble un peu à écrire ces premières lignes qui sont pourtant le résultat, je vous assure, d'une bien longue délibération. » Quand j'eus décidé de les écrire, il était convenu avec moi-même qu'elles seraient une série de petites notes prises à la lecture du livre que vous avez eu la complaisance de me prêter. Naturellement, ces réflexions n'auraient pas eu d'autre résultat, sinon d'autre intention, que de vous donner l'occasion de vous moquer de moi. Sans compter que ça m'est désagréable, il faut que je vous dise que je n'ai pas lu ce livre depuis 8 jours qu'il est là, sur un beau pupitre, en marqueterie, quelque chose comme une place d'honneur, quoi. Monsieur, le temps m'a manqué. Le croiriez-vous? Oui, car je l'ai passé à lire votre petite note. Je suis si peu accoutumé à être traité, même par vous, de la façon grave et mieux que flatteuse que vous semblez prendre en ce bout de mot charmant, qu'il n'y a pas grand mérite de votre part à m'avoir touché. Vous voyez que je ne vous gâte pas, bien qu'au fond vous en valiez la peine pour le plaisir que vous m'avez fait. Car maintenant, il me semble être pour longtemps à l'abri de ces allusions railleuses qui vous font l'effet tout à coup d'une porte qui grince au milieu d'un agréable concert ou d'un petit trébuchement bien vulgaire au cours des plus douces rêveries. Quand ma réponse n'aurait pour but que de vous supplier de demeurer dans ces bonnes dispositions, je me féliciterais de l'avoir faite. Eh mon Dieu, je me demande quel autre but elle peut bien avoir, sinon vous dire quel plaisir j'ai trouvé dans ce que chacun de vos mots vous ouvre d'attirant de... Oh, je ne sais pas comment dire. Les mots qu'on nous apprend et que l'on prononce autour de nous ont si peu de rapport avec ce que vous indiquez si bien, avec ce qu'il faut être non pas éloquent, mais évocateur, n'est-ce pas, pour faire entendre? Je vous ai bien reconnu, tel que je vous ai vu à Venise, dans les instants où vous condescendiez à ne pas plaisanter. Mon Dieu, pourquoi faut-il que les uns se donnent tant de mal pour se faire prendre au sérieux, et les autres pour donner de l'illusion de bouffon, taquin et méchant? Où vais-je et que vous dis-je, et qu'ai-je à vous dire? Ah, voyons, que je suis bien incapable de vous suivre en une si noble collaboration, que tout ce que j'y sens de séduisant et de beau épouvante un peu ma timidité et mon ignorance. Seigneur, je parle de timidité et je vous écris. Car il n'y a pas d'illusion à se faire. Ce n'est pas des notes, je vous écris. Ah, j'ai bien peur que vous ne trouviez cela énorme. Mais vous, monsieur, qui n'êtes pas dans les affaires et n'avez même pas l'air de vous douter de ce que c'est, vous devez comprendre que l'on puisse accomplir certaines actions extraordinaires poussées par quelque chose de si totalement désintéressé, par un charme si innommable, si au-dessus de tout ce qui a coutume de vous entraîner, que vraiment il ne doit y avoir nulle vilenie à se laisser aller. Monsieur, mon ami, vous m'inspirez tant de confiance avec votre dévouement à des idées si en dehors du courant de la vie, que si je garde un peu d'émotion jusqu'à ces derniers mots, je n'ai eu aucun scrupule. Retenue à dîner avenue Henri Martin, elle me prit à part dans le salon. « Je suis sûr, dit-elle, que vous ne vous étonnez pas de ne point m'entendre m'excuser d'avoir osé vous écrire. »« Mais je ne souffrirai pas. » »« À la bonne heure. » »« Maintenant, dites-moi, avez-vous assez d'amour-propre pour vouloir bien admettre que ce qui est vis-à-vis de vous une action dont on est plutôt fier ne se commettrait pour rien au monde en faveur de qui que ce soit autre que vous ?» Me voici dans un bel embarras. Cruel petit sphinx, quel que soit le sens de ma réponse, je mérite d'être condamné. Oui, je me gonfle d'un orgueil qui me rend ridicule. Et non, je vous blesse. Vous hésitez? Non, non, je choisis le ridicule. Ne voulez-vous bien ne pas rougir d'avoir de vous l'opinion que je me suis faite moi-même et qui au fond est bien la vôtre? Allez, si vous étiez franc. Allons donc, tenez sans y prendre garde, voilà que vous vous arrangez avec une coquetterie autrement singulière que celle que je vous accorde et vous veux. Vous vous mettez à part de tous les hommes et en vous prétendant dénué de vanité. Mais je vous assure... Alors, vous n'êtes pas l'homme que j'ai cru trouver? Et vous ne valez pas la peine que je déroge pour vous aux règles de... Grâce, grâce, mademoiselle. Vous êtes un adversaire terrible et je me rends. Oui, je suis orgueilleux. de vous avoir inspiré l'idée que j'avais le droit de l'être. Je suis à part et au-dessus de tout. Le monde, puisque c'est ainsi et puisque c'est là que vous m'avez vu, et il faut bien que cela soit, sans quoi vous seriez inexcusable d'avoir trahi les canons de la bienséance. Non, je vous en prie, ne quittez pas votre sérieux. Il n'est pas question de jouer, ce qui d'ailleurs ne vous va que médiocrement, vous aurez beau faire. Ah, interrompis-je une fois pour toutes, que je m'explique à ce propos. J'ai vu, depuis que je regarde, tant de gens se grimer de sérieux et d'importance, qui ne sont en dessous que des polichinelles, que la figure du pitre m'est apparue, par contre, l'image définitive du philosophe de nos jours. C'est par goût pour ces beaux clowns qui pleurent sous leur farine exhilarante que vous me verrez sourire aux instants les plus graves. Eh bien, je vous dirai l'autre fois, si je vous approuve, quoiqu'à la vérité, j'ai vu, pour ma part, plus de gens sérieux que de polichinelles, mais sérieux profondément pour des choses bouffonnes. Pour le moment, je ne veux pas lâcher mes moutons, puisque nous avons quelques secondes de loisir. Et ces moutons s'apprêtent à vous dire qu'une petite fille qui a toujours vécu jusqu'ici dans ce milieu de gravité imperturbable, autour de ces fameux lingots d'or, que je révère beaucoup, notez bien, mais sans aveuglement, eh bien, éprouverait une joie grande, noble, belle, n'est-ce pas, dans le commerce d'une amitié intelligente avec un homme qui porterait une gravité au moins aussi considérable sur des objets d'une autre envergure que nos lingots. Alors, laissez-moi achever. Ce n'est déjà pas si facile à dire. C'est une grande témérité de ma part, je sais bien que de me croire bonne à ce commerce. Mais la faute est à vous qui me l'avez d'abord entrouvert. Je désire, monsieur mon ami, que vous voyiez cette ambition-là, et rien que cette ambition-là, dans l'acte d'indépendance que je me permets en votre honneur. Quelques jeunes gens se précipitèrent, ils tenaient à la main les couplets d'une chanson décente d'Yvette Guilbert, et venait prier mademoiselle d'accompagner l'un d'eux au piano. Elle sauta et leur fut toute dévouée. Je la regardai un moment au piano avec les frisons blonds de ses tempes pailletées d'or par les lumières. Des refrains d'une ineptie équivoque naissaient de la promenade de ses doigts. Néanmoins, je continuais de regarder ses doigts aimés, mais leur mouvement, peu à peu, se transformait pour moi en ceux d'une gigolette de café-concert que j'avais connue et qui était assez spirituelle jusqu'en sa façon de paraître bête. Peu à peu, mes yeux souriaient à l'évocation de cette divette court-vêtue et je sentais en même temps le pli amer de ma bouche. Elle leva les yeux un instant vers moi tout en plaquant de tristes accords. Ah, je me relevais d'un coup. Jamais je ne verrai dans nul tableau humain la mêlée violente et distincte de tant de sentiments divers que dans le miroir de ses yeux gris, qui se foncèrent et s'humidisèrent tout à coup, et dont je ne pouvais plus m'écarter malgré la remarque qu'autour de nous, sans doute, on ne me manquait pas de faire. Me prit-elle en pitié ou bien le rôle qu'on lui faisait tenir ? Il y avait dans son regard de la surprise, de la confusion, un peu de dégoût, et il y surnageait une complaisance habituelle pour la médiocrité, à l'aide de quoi elle se composa un sourire aimable, qu'elle promena ensuite sur la guirlande de jolis cœurs qui l'encadraient. Je ne fus pas maître de moi, je sortis, et comme je soulevais une portière, le bruit des applaudissements me gifla tout l'épiderme. Je jugeais ma répulsion puérile, mais mon état exaltait la violence de toutes les impressions. J'atteignis l'antichambre et un domestique tenait mon manteau. Elle apparut dans l'entrebâillement d'une tapisserie qu'elle avait peine à soulever. « Vous partez ? » dit-elle. « Mais j'avais un mot à vous dire, venez donc. » Elle m'entraîna dans une pièce voisine et aussitôt, Ah, je vous avais bien dit que vous ne feriez pas ici. Mais si, mais je vous supplie de ne pas croire. Seulement, j'ai la tête lourde ce soir, j'ai besoin d'air. Vous savez, comme à Venise, les jours de pluie. Oh, vous avez une façon de regarder mes doigts. Mais que vous ont-ils fait, dites? C'est cette chanson, n'est-ce pas? Elle me montrait les petits doigts longs, minces et blancs. Je lui pris la main et la serrai doucement, lui disant adieu. Et votre livre, fit-elle, quand vous le rendrai-je? Quand vous l'aurez lu? Non, je voulais dire, quand viendrez-vous le chercher? Mais quand je croirai que vous l'avez lu. Méchant. Dites donc, vous savez que je puis très bien ne pas achever de lire plusieurs livres à la fois. Je vous en apporterai plusieurs à ne pas lire du tout. Mademoiselle amie, je vous préviens que dès ce premier feuillet qui doit vous dire mon contentement, je mets à celui-ci une sourdine. Pourquoi? Mais parce qu'il en a besoin. Je pense que c'est beaucoup vous dire. Je vous ai vu aujourd'hui. Vous ai-je dit le quart de ce que j'avais envie de vous dire? Jamais, jamais on ne peut parler. Jamais, en aucune circonstance, on ne peut donner lettre à ce qui flotte autour des lèvres, qui cherche à prendre vie et formant des mots tout près, déjà presque articulés, vie et ce qui se résorbe fatalement avorté. C'est bien pis que n'oser pas dire, c'est ne pas pouvoir exprimer. Et ce qu'il y aurait de trésors à retrouver, d'exquises minutes de vie intense, d'instants de fièvre intraduits où l'âme, semble-t-il, allait s'égoutter en perles, qu'on n'a pu ni recueillir ni donner. Ce qu'il y aurait à glaner dans ces résidus de la conversation, quantité de sincérité, de franchise, d'élan morné, victime de la conversation elle-même, mécanisme trop compliqué, inégal toujours à la pensée, qui constamment trahit, qui est bruyant, indiscret, dont l'écho même où vous effraie, vous intimide ou vous grise. Combien meilleur le signe en sa simplicité pour l'expression des émotions fortes. N'allez pas croire que je vous fasse l'apologie de la pantomime. Ah, vous n'imaginez pas comme il est bon de vous parler le soir. Toutes les secousses qu'on a éprouvées, tout le mal qu'on s'est fait en se cognant les coudes, toutes les rudesses qui vous ont éraflé, écorché, tous les contacts pénibles, toute la grossièreté traversée, tout cela tombe, semble-t-il, comme des vêtements tachés de boue, et l'on sent, en s'approchant de vous, qu'un souffle frais vous passe, que quelque chose de reposant vous environne. Il semble que l'on pénètre dans une chapelle avec cette croyance d'enfant que la Madone vous sourit. Vous ai-je dit que je vous avais nommé Sainte Marie des Fleurs avant de vous connaître? Vous plaît-il d'être sous cette invocation la figure très confiante à qui l'on vient après chaque journée apporter ses confessions et presque ses prières? Il y a tant de choses rudes tout le temps heurtées sur la route, depuis la brutalité franche jusqu'à ce qu'il n'ait que l'absence de délicatesse. On souffre d'un bout à l'autre de cette progression parcourue en tous sens, et presque tous les gens que l'on voit vous font l'effet de ces pierres râpeuses, sur quoi je ne puis absolument pas passer la main. Le défaut de trouver un être qui n'est pas cette écorce de grès vous fait appeler à sa recherche et, à force de tâter des mains pour éprouver, quelle délice de rencontrer enfin qui soit douce. Cela vous garde de s'essayer à devenir soi-même coriace pour éviter le froissement des vilains épidermes. Comprenez-vous que j'aime à vous parler le soir? Monsieur mon ami, j'ai attendu votre petit envoi. Je vous le dis pour que vous sachiez bien que je me mets assez vite à attendre et que je n'aime point ça. La personne que vous aviez chargée de la commission avait reçu des instructions si minutieuses qu'elle n'a consenti à se dessaisir du paquet qu'en main propre. Soyez sans inquiétude, mes mains propres l'ont reçue. Vais-je vous dire aussi qu'elles l'ont bénie ? Oh oui, tant pis. Je ne sais point vous déguiser ma pensée. Vous dites des choses, et d'une façon que je suis heureuse et confuse de me savoir la privilégiée qui les reçoit, et mieux, qui les provoque en partie. Il m'arrive de me laisser tomber les bras, de me demander si je ne rêve point. Sur quoi, monsieur, vous appuyez-vous donc pour croire que je vaille qu'on me parle ainsi ? Mais personne ne m'a parlé jamais, ni de cette façon, bien entendu, ni d'une autre. J'en demeure un peu étourdi, et pour ne vous pas revêtir de trop grands mérites, j'en attribue la raison à la nouveauté pour moi de toute parole un peu vibrante et parlant des choses de l'âme. Il n'y a point de mal à se laisser flatter du plaisir si particulier qui vient de mots pleins de sens à la fois et de caresses. Que dites-vous, que jamais, jamais on ne peut parler, etc. Mais si, si, on peut parler. Oh, monsieur mon ami, j'ai la plus grande foi en vous, et je m'abandonne les yeux fermés à la fréquentation si chaude de votre pensée. On doit jouir de l'âme comme si on la devait perdre d'un instant à l'autre, n'est-ce pas ? Vous dirai-je les soins avec lesquels je recueille les parcelles de ce que vous écrivez ? Je prends ces bribes une à une et je les laisse, si l'on peut dire, au bord de mon âme, un petit temps, puis je les sens tomber goutte à goutte jusqu'au fond, où je sais que je ne peux plus les perdre. Cela vient-il de moi ? Mais il me semble qu'on ne finit pas de vous lire, car de nouvelles choses surgissent qu'on n'avait point d'abord soupçonnées sous l'impression première. Vous tourmentez, monsieur mon ami. Voilà qui est aussi agréable que terrible. On voudrait tant causer avec vous, tranquillement. C'est cela, cela que je voudrais. Pourquoi cette fièvre et cette inquiétude qui vous brûle et semble consumer tout alentour ? Comme vous devez vous faire souffrir, à moins que vous n'y éprouviez le même goût que l'on doit avoir à vous sentir brûlant. Vous m'avez bien amusé avec vos mains qui sont comme des pierres râpeuses. Oh, le vilain égoïste, l'affreux douillet, la petite femme. Mais moi, je ne suis pas comme cela. Ce qui me choque, après les rustres qui vous donnent des poignées de main qui font rougir les joues, ce sont ceux qui vous tendent une main si molle ou si sèche qu'elle n'a aucune expression. Voyez, je ne suis accommodé que par les extrêmes, l'outrance ou le trop peu. Et je n'avais pas pensé à votre râpe qui doit être intermédiaire. Nous irons vendredi après-midi à cette exposition du Palais de l'Industrie qui va fermer bientôt, je crois. Cela vaut-il la peine ? Adieu, monsieur mon ami. Tout courait et tout se précipitait. Pourquoi les choses elles-mêmes se mêlent-elles d'être si pressées ? C'étaient les mots surtout qui nous emportaient, ces mots que je ne maudirai jamais assez. Chacune de mes paroles était, pour la pauvre enfant, comme une petite flèche qui s'élançait de mes lèvres ou de mes doigts. Assurément, j'aurais voulu agir sur ce cerveau de jeune fille, mais l'ayant touché dans une mesure déterminée, j'étais effrayé de voir la puissance soudaine de tout le restant de mes petites forces. Elle y gonflait le sang de chaque expression, et s'émouvait pour le seul fait que venaient de moi des choses qui eussent laissé tout le monde indifférent. Mais, quoi que je fisse pour enrayer désormais notre marche dangereuse, nous étions déjà loin, et la sorte de terreur que j'éprouvais était assez semblable au vertige qui vous fait vous précipiter. « Bonjour, monsieur mon ami, c'est moi, ne vous dérangez pas. Est-ce que vous allez trouver que je vous taquine insupportablement ? Si je vous dis que j'ai écrit, le soir de notre rencontre au Palais de l'Industrie, un petit feuillet que vous n'aurez pas, parce que, l'ayant porté sur moi plusieurs jours, il est dans un état. Vous ne le regretterez pas. Il était assez maussade, oui, maussade. Je ne sais trop pourquoi, et malgré que je vous assurerais immense d'être venu à cette exposition, mais, tenez, voyez tout de suite comme le monde est mal fait, comme nous sommes malheureuses. Je dois aller à tel endroit, il n'y a pas de mal à ce que j'ai du plaisir à vous y voir. Je vous dis, je vais à tel endroit, il n'y a rien non plus d'extraordinaire que vous y veniez. Eh bien, je suis au désespoir, parce que cette petite entente prend en français le nom de rendez-vous, ce qui est affreux, n'est-ce pas, monsieur mon ami? Cependant, si dans le salon je vous fais signe de venir causer avec moi dans un petit coin, cela ne prend pas ce nom effrayant. Ah, j'ai été bien ennuyé. J'aurais mieux fait, dites, de ne pas vous prévenir. Mais je ne croyais pas que vous viendriez, ni même que vous feriez attention seulement. Au hasard, ainsi l'expression timide de petit ou grand désir, sans compter absolument qu'il se puisse réaliser. Et je vous assure qu'on est tous surpris quand il se réalise et que l'on sent que l'on n'y était pas du tout préparé. Aussi, vous avez dû me trouver bien étrange cet après-midi. Ah, pourrais-je jamais être devant le monde, le moi-même que vous formez par la douce culture de vos paroles? Nous apparaîtrons-nous jamais l'un et l'autre ce que nous sommes dans ces feuillets étrangers? J'ai peur, j'ai peur. Dites-moi, mon ami, pourquoi j'ai peur? Échangeons des feuillets le plus possible. C'est le meilleur, n'est-ce pas? Je suis revenu harassé de cette promenade, étouffé de ce que j'aurais voulu vous dire, ou seulement vous dire de remerciements. Oui, de remerciements, gros, gros comme pour ce que vous voulez bien être pour moi. Jamais je ne saurais vous dire. Je ne sais pas du tout en quoi ça consiste, ce dont je veux vous parler. J'ai beau réfléchir, ça me paraît une gratitude énorme, comme si vous m'aviez fait plus de bien en seulement vous occupant de moi que tous ceux qui m'ont comblé jusqu'ici. Mon Dieu, que tout ça est bizarre, que vous devez me trouver sotte, et que vous avez aujourd'hui raison de dire qu'on ne peut point parler. Mais je suis si bien accoutumé à ne rien exprimer de ce que je pense, à ne laisser transpercer que les choses indifférentes, que si je me hasarde à être une fois expansive, tout le monde me demande si je suis malade. Oh, dites-moi, vous qui savez, est-ce que le fond de tout cela n'est pas vrai? N'est pas qu'il ne faudrait point tremper la main dans la source qui alimente notre rêve? Mieux vaudrait ne vivre que de chimères, qui sont la seule vérité? Je vous laisserai sur la méditation que vous pourra inspirer le désir que je vous ai dit, l'ai-je bien dit, et que j'ai de vous voir à l'un et à l'autre beaucoup de poudre aux yeux. Mais voyez comme je suis imprudente, illogique, faible, ou simplement confiante en mon rêve, malgré toutes mes pleurs. Ce feuillet semble dire que c'est de loin que l'on se jette le mieux la poudre, et je vous le dis. Venez à la maison, m'en jeter demain. Quand elle vit que je m'apprêtais à quitter le salon, elle se leva et elle allait prendre dans une jardinière une rose qu'elle garda à la main. Je ne pus pas m'en aller si tôt. Deux idées lui vinrent alors à la fois que je n'avais pas encore fait la connaissance de grand-maman qui ne quitte pas la chambre, et que papa avait acheté des étains qu'il fallait me montrer dans la salle à manger. « Conduis donc, monsieur !» dit Madame Vitellier. Nous allâmes chez grand-maman, qui nous embrassa l'un et l'autre d'un regard si étonné et si tendre que j'en fus presque incommodé, et je demandai à voir les étains. Marie gardait sa rose à la main. Nous étions seuls dans la salle à manger. Je désignai la fleur. « C'est, dis-je, une houppette excellente pour la poudre aux yeux. » Elle me regarda seulement, sans paraître entendre, et le champ de ses yeux gris se peupla encore de cette façon extraordinaire que je ne pouvais supporter. Elle me parlait des étains. C'était, entre des bords sombrement ondulés, un corps de femme hissant à demi des eaux de la mer, puissant, gracieux, souple, modelé admirablement. Elle avança un moment la main qui tenait la rose. Je crus qu'elle me l'allait donner. Nous continuâmes de parler de l'étain, aussi éloignés l'un et l'autre qu'il est possible d'un sujet de conversation. Je crois que je tremblais légèrement et je posais l'œuvre d'art de peur de laisser paraître mon émotion. J'avais une peur d'enfant de retrouver le regard de Marie. Je sentais que je crierais, ou bien que je me pencherais la baiser. Elle n'osa ni me donner la rose, ni moi la prendre. Nous rentrâmes au salon sans nous être regardés. Ce fut la minute la plus exquise de ma vie. Seul, ce soir, chez moi, bien clos, mon feu tout rouge et un grand calme partout, quelque chose de doux et de si bon me prend que je me renverse contre le dossier de mon fauteuil en fermant les yeux. Je garde mes feuillets et mon crayon à la main pour vous dire tout à l'heure un peu de ce que j'éprouve. Je cherche ce que j'ai bien certainement à vous dire. Vous me faites trop de bonheur, c'est tout, c'est tout. Non, ne vous moquez pas de moi si vous croyez que c'est trop peu vous dire. Ne vous offensez pas si vous croyez que c'est vous dire trop. Ayez pitié de moi plutôt. Je vous adresse mon silence. Ne me traitez pas de fou, c'est une chose très naturelle. Je me tais, je ferme les yeux. Il me semble que je me sépare du monde entier. Il n'y a plus rien au monde, tout en a disparu. Quelqu'un le repeuple, c'est vous, Marie. Passy, 24 décembre. Mon ami, voici le dernier billet de la plus malheureuse des femmes. Vous n'attendez pas que je vous dise la raison de cette double nouvelle, car vous devez voir en beaucoup de choses plus loin ou tout au moins plus vite que moi, et vous me ferez la grâce de comprendre ce que je ne me sens pas capable de vous expliquer. J'ai bien pleuré, allez, tout le temps que j'ai tardé à vous répondre, et je suis bien confuse de ce que j'ai fait vis-à-vis de vous, monsieur, qui devez avoir une jolie opinion. Mais je vous jure que je ne savais pas ce que je faisais. Je vous écrivais aussi naturellement que je le fais à ma petite amie quand je suis loin d'elle. Maintenant, seulement, je vois que j'ai eu tort. Oh, ne croyez pas que je vous accuse et fasse retomber sur vous la moindre responsabilité de ceci. Dans ces affaires, vous avez toutes sortes de raisons de ne point juger comme nous et qui nous mettent à l'abri de vos inquiétudes. Enfin, sachez bien que je reste votre ami et je crois même que je serai pour vous une meilleure amie en prenant la détermination que je vous ai dite. J'ai cru d'abord que j'étais folle en éprouvant tout à coup une si grande terreur de ma conduite, mais plus j'ai réfléchi, plus cette impression s'est confirmée. Voilà bien la première fois qu'une pareille chose m'arrive. Et vous allez vous moquer de moi, de qui vous admirez la fermeté dans les partis que j'avais une fois adoptés. Eh bien, oui, je me sens plus solide du tout. Et c'est un des malaises les plus pénibles, de sentir qu'un chemin où l'on s'est engagé avec une telle confiance vous mène en terrain si vague que l'on ne sait plus s'il contient le jardin du paradis ou bien le précipice. Allez-vous rire de ce qui n'est peut-être chez moi qu'un enfantillage, bien que je ne le croie pas? Mais je vous ai si souvent prié de ne pas rire que vous ne riez plus. Peut-être ai-je eu tort, et eût-il mieux valu rire? Ah, je vous jure que j'en ai pas du tout envie dans ce moment. Et il faut que je m'arrête. Voyez-vous, Car je sens que lorsqu'on a des ennuis qui vous soulèvent le cœur par trop fort, les seules personnes qui recevraient votre confiance sont celles à qui il ne les faut pas faire. Et c'est bien malheureux. J'espère, monsieur, que l'on vous verra tout de même à la maison, et vous savez que l'on y aura plaisir. Il faut pourtant que je vous demande une chose, c'est de brûler tout de suite ce petit dernier mot, ainsi que ceux d'avant, et de ne plus penser jamais qu'ils aient existé. Je vous remercie. Adieu. Adieu. Marie, après deux longues journées remplies d'un singulier mélange de joie et d'angoisse, de délibération, de partie résolue et de retour, de longues conférences avec ma bonne cousine à qui il fallut recommencer de tout dire, après être monté en voiture et avoir indiqué au cocher l'avenue Henri-Martin, et en être descendu parce que j'avais besoin de marcher et craignais d'arriver avant d'avoir réfléchi suffisamment, je finis par monter à pied du côté de ce Trocadéro, si souvent envisagé depuis 2 mois comme le terme d'un idéal voyage. Ces tours de pacotille étaient transformées pour moi. Elles m'étaient devenues comme ces clochers aperçus de loin à l'approche d'une ville chère, et une fois dans ces jardins, c'est un autre monde que j'abordais, et je pensais que les gens qui par hasard m'y rencontraient ne me reconnaissaient pas plus que je ne le faisais pour eux. Ni là, ni ailleurs, personne ne m'eût reconnu aujourd'hui. Ces dames me demandèrent si je relevais de maladie. Je leur dis que non, et elles ne doutèrent pas que je ne fusse au début de quelqu'une. Marie elle-même était fort décomposée. À la faveur d'un mouvement qui se produisit dans le salon, elle s'approcha de moi. « Mais comme vous voilà fait, mon ami, qu'avez-vous ? » Vous le demandez ? » Elle n'osa plus m'entendre. Elle alla et vint de l'un à l'autre précipitamment, puis parla à sa mère et l'on me dit en riant que grand-maman, ayant une faiblesse à mon endroit, désirait me voir. Marie me fit signe. « Venez ! » Nous nous trouvâmes seuls dans l'escalier. Nous dûmes croire l'un et l'autre qu'il allait se passer quelque chose d'assez extraordinaire, le souhaitant sans doute et le redoutant à la fois. Nous montions, elle devant, un peu sautillante. Cet escalier parut long, puis court. Nous atteignîmes trop tôt la chambre de grand-maman. Nous ne nous étions rien dit. Mais quand nous fûmes devant la vieille dont les yeux seuls parlaient et nous caressaient encore tendrement, comme la dernière fois et mieux, semblait-il, nous entendîmes nos cœurs battre. Cela faisait un bruit que nous couvrîmes de paroles confuses et précipitées. Nous ne pensions point au sens de nos mots. La bonne femme faisait des efforts pour nous saisir, et une sorte d'indulgence intelligente demeurait par-dessus tout dans le bleu vif de ses yeux. Elle semblait dire « Mon Dieu, comme je comprends clairement ce langage absolument décousu et toutes vos phrases sans queue ni tête !» Elle voulut nous embrasser. Je fus si touché que la voix commença de me trembler, et c'était l'instant cependant où j'avais le plus grand besoin de conserver mes sens, car il fallait que la descente dans l'escalier contînt quelque chose de décisif. Ayant pris congé de cette chère grand-maman, nous nous retrouvâmes seuls sur le palier. Je n'avais plus que la peur d'être de nouveau paralysé par un commencement de silence. 3 marches, sans parler, pensais-je, je ne dirai rien. Quand on est en train de parler, même de choses futiles, on peut tout exprimer, même les plus graves. Alors, comme Marie refermait doucement la porte, je lui dis, presque sur le même ton que mes derniers mots quelconques, « Je vous aime. » Descendons, descendons, fit-elle vivement et sautant. Même elle faillit trébucher à la première marche. Je la soutins du bras et vis qu'elle n'avait pas lit. Descendons, descendons, répétait-elle. Nous descendîmes plusieurs marches sans ajouter un mot. Le maudit silence allait retomber. Je me débattis et je dis résolument à Marie : Marie, je ne peux plus, je vous aime. Elle regarda vivement en haut, comme si elle souhaitait que quelqu'un vînt qui retardât cette minute. Marie, me permettez-vous de demander votre main ? Ah, fit-elle, mais je ne peux pas, vous savez bien. Oh, pourquoi m'avez-vous dit cela ? Il ne fallait rien dire. On aurait pu rester ainsi peut-être longtemps, encore longtemps. Je ne pourrai plus vous voir à présent. Il ne faut plus que je vous voie. Nous voulions nous arrêter dans cet escalier et nous n'osions faire ni l'un ni l'autre. Dans un corridor ou sur un palier, nous eussions causé peut-être. À tel point l'on est esclave de l'usage coutumier des choses. Et nous arrivions au bas de cet escalier, et nous ne nous parlerions plus jamais. Marie hésita un instant, tournant le bouton de la porte du salon. Elle vit clairement, sans doute, qu'elle ne pouvait pas revenir sur ses dernières paroles. J'allais la supplier et l'appeler « Marie !» La porte était ouverte. Nous aperçûmes plusieurs personnes. Nous étions à la minute la plus torturante de notre drame et dûmes présenter les figures ordinaires. Je tombais comme une chose inerte chez ma bonne cousine de la Julière. Oh, nous n'eûmes pas besoin de parler. Elle s'assit à côté de moi, m'embrassa et pleura. Elle me garda chez elle. J'y passai 3 jours dans une prostration complète. Une après-midi, nous allâmes au bois. Vers l'endroit où l'allée commence à s'incliner sur Longchamp et où les voitures sont plus libres, nous fûmes croisés par la famille Vitellier. Marie était assise à côté de sa mère et son père avait près de lui un grand homme de barbe jaune et de teint coloré. Nous nous saluâmes, et je dis à ma cousine en ricanant si fortement qu'elle eut peur. « Ah, c'est le fiancé de Chicago !» Il y eut ensuite un assez long silence, et ma cousine me dit « Il faut vous remettre au travail, mon ami. Votre existence n'a pas de nom. » Je mêlai cet avis de la sagesse qui prononçait ma condamnation en face de l'évidence, à l'envie amère que j'avais de revoir la voiture contenant Marie et son fiancé. Cela forma quelque chose de si douloureux que ma torpeur se secoua comme sous des piqûres brûlantes et se mua en rage folle. Je me sentais parfaitement insensé, mais j'étais fouetté jusque-là par ma sottise et m'engrisais comme d'autres font de la boisson dans des moments analogues. Je voulais que Marie fût humiliée vis-à-vis de moi, d'être vue avec son fiancé et d'insulter presque à ma douleur visible. C'était stupide, elle ne songeait pas assurément à cela, et je fis retourner la voiture. Nous les croisâmes de nouveau. « C'est assez !» observa ma cousine. C'était assez, en effet. J'avais regardé cette fois-ci le visage de Marie. Elle avait du cygne jusqu'aux oreilles, à la façon dont elle se gardait le cou avec des foulards blancs, à Venise. Et ses yeux gris étaient purs, seulement un peu effarés, inquiets. Je ne sentis plus qu'une misère si profonde que je me fusse à pied laissé écraser par la première voiture. De temps en temps, comme un poison qui peu à peu s'infiltre et ravage des parties reculées, cette idée me lancinait. Marie s'est jouée de moi. La cessation brusque de sa correspondance n'était pas cet éveil de pudeur qui vient de l'amour, mais l'éveil de la crainte qui venait de Chicago. Elle a dû s'amuser beaucoup. Elle a peut-être fait de moi bien des gorges chaudes avec les petits messieurs aux chansons d'Yvette. C'est une petite gueuse. Et je répétais presque tout haut, c'est une petite gueuse. Il me semblait, en disant cela, que je mâchais une substance nauséabonde. C'était une parole qui devait avoir le goût du blasphème, de l'insulte à Dieu de qui l'on se croit molesté. Je ne me rappelle point être descendu de la voiture. Je ne me retrouvais que couché, depuis longtemps sans doute, avec des potions et l'appareil de 1000 soins, et le même goût dans la bouche, les mêmes mots persistants, avec l'horripilant d'une scie et la répulsion d'une calomnie proférée malgré soi. C'est une petite gueuse.